Prions. Seigneur, on te remercie de nous réunir ce matin en ta présence. Là où deux ou trois sont rassemblés, ta parole nous promet que tu es au milieu de nous, Seigneur. Et nous venons ici non pas pour par habitude, par tradition, pour se retrouver entre amis, même si ces choses-là peuvent être vraies, Seigneur. Mais nous venons ici pour te rencontrer par la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous, en chacun de nous, pour ceux qui te connaissent, et aussi, Seigneur, par ta parole que tu as inspirée et qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que tout homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Seigneur, nous l'avons vu, nous le croyons et nous voulons vraiment le vivre. Seigneur, parle-nous ce matin encore. Transforme-nous par ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur. Et nous avons ta promesse. Et donc, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous voulons faire taire les distractions dans nos esprits, les soucis, les motifs de joie, de distraction, Seigneur, que tout cela soit mis de côté, même si nos cœurs sont pleins de reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies, au milieu de nous, dans notre assemblée, Seigneur, dans ce pays, pour ton nom, aide-nous à recevoir ta parole ce matin. Amen. Si vous voulez vous tourner avec moi dans 2 Timothée 4, à partir du verset 1, nous souvenons que cette lettre de Paul est la dernière lettre qu'il a écrite ou qu'il a dictée. Il l'adresse à son protégé, à son jeune disciple Timothée, qui va avoir la lourde charge de suivre dans ses pas, dans les traces de Paul. C'est lui qui s'occupe de l'église d'Éphèse, une grande église qui n'est pas sans poser beaucoup de problèmes, problèmes qui décourageaient Timothée, qui était sur le point de laisser tomber. Et en fait, Paul lui donne des raisons, l'exhorte. On sait que Timothée était quelqu'un de mal assuré, c'était quelqu'un qui avait une timidité peut-être naturelle, qui était augmentée du fait que lorsqu'il avait grandi, il venait d'une famille un peu exclue de la communauté de sa ville, parce que son père, si sa mère était juive, son père était païen, il était grec. Et ça explique en partie pourquoi il avait ce manque d'assurance auprès des autres, ou c'est un facteur qui peut expliquer, pour être plus exact. Et donc c'est quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé, qui avait besoin d'être exhorté à s'accrocher. Et là nous arrivons au tout dernier chapitre. Alors une fois encore, les chapitres, les versets, les numéros de chapitres et les numéros de versets, c'est une invention relativement récente. C'est au XIIe siècle et au XVe siècle que, pour des raisons de commodité, on a décidé de couper, de diviser les lettres en chapitres et les chapitres en versets, afin de pouvoir parler, donner une adresse et de pouvoir parler d'un passage précis. Mais c'est pas nécessairement inspirant. Mais là, on arrive au dernier mot de la dernière lettre de l'apôtre Paul, qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament et qui nous a laissé là des instructions très, très précises, très fortes. On va lire ensemble les versets 1 à 5 et on va commencer aujourd'hui à commenter un peu ce passage. Je lis dans la version à la colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez le signaler et quelqu'un vous en amènera une. Verset 1, chapitre 4 de 2 Timothée. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Des paroles très claires, très fortes, des instructions très précises qui s'adressent donc à Timothée, ce jeune pasteur, ce jeune prédicateur, et on voit comment, avec quelle intensité, avec quel sérieux, Paul donne des consignes à Timothée. En donnant ces consignes à Timothée, il donne des consignes à tous ceux qui voudraient enseigner aussi la parole, aux pasteurs, aux prédicateurs, aux évangélistes, à tous ceux qui ont à cœur ou qui ont la responsabilité de parler au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de la Bible, au nom de Dieu, au nom du Saint-Esprit, à d'autres personnes, pour les avertir, pour les mettre en garde, pour les encourager, pour les instruire dans les choses de Dieu. Alors peut-être que j'en ai perdu quelques-uns qui se disent « Ah, ça c'est pour les prédicateurs, c'est pour les pasteurs. Moi je ne suis pas appelé à prêcher semaine après semaine ou de façon régulière, donc ce n'est pas pour moi. Je vais pouvoir réfléchir à ce que je vais faire cet après-midi. Ou à ce que j'ai mangé hier soir. » Il y en a qui ont participé à Devine qui vient dîner. N'ayez pas honte, hein, c'est pas une tare. Voilà. Il y en a qui sont fatigués ce matin. Pour ces personnes qui se disent « c'est pas pour moi », si c'est pour vous, parce que vous allez, j'espère, où que vous soyez, trouver un lieu de culte, un lieu, une assemblée dans laquelle vous allez pouvoir avoir la communion fraternelle avec des sœurs, des frères en Christ, recevoir un enseignement, vivre la vie de façon chrétienne de façon pratique, être une lumière. Et si vous êtes, si vous vous destinez justement à être, faire partie d'une telle assemblée, voilà les critères par lesquels vous devez juger ceux qui vous enseignent. On vit de plus en plus, le verset 3 semble être en accomplissement en ce moment. Les hommes ne reçoivent pas la parole de Dieu, ils choisissent ce qu'ils veulent entendre et ils trouvent quelqu'un qui peut le leur enseigner. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Paul déclare à Timothée. Il donne des consignes très précises et c'est à la mesure de ces consignes que vous pouvez apprécier l'enseignement, le ministère d'un prédicateur, d'un pasteur. Le pasteur peut être grand, beau et fort, charismatique au sens général du terme, raconter des blagues qui font plier toute l'assemblée. Ce qui compte, en fait, c'est qu'il fasse ce que Paul décrit ici. Il y a une succession d'impératifs. Et souvent, c'est une bonne façon de comprendre un texte biblique, c'est d'aller voir les verbes qui se trouvent là. Parce que les verbes, c'est ce qui structure l'action. Et c'est ce qui vous montre la logique d'un texte. Et là, donc, Paul a des paroles très fortes pour parler à son jeune disciple. Et s'il donne ses conseils, on peut imaginer facilement que ce n'était pas parce que Timothée avait déjà tendance à faire tout ça, c'est peut-être parce qu'il avait justement tendance à s'écarter de ses principes fondamentaux. Sous la pression d'une assemblée qui n'était pas facile à gérer, il avait peut-être tendance à laisser glisser certaines choses pour avoir des ressources financières. Peut-être qu'il était prêt à ne pas confronter le péché des plus riches. Et il y avait tout un tas de raisons qu'on peut imaginer, mais si Paul lui parle ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il en avait besoin. Et le Saint-Esprit savait que dans les temps à venir, comme aujourd'hui, nous en avions tous besoin, un grand besoin. Il va, après, encore une fois, on a changé de chapitre, mais la pensée de Paul n'a pas il n'est pas parti se coucher pendant une semaine pour reprendre la plume le dimanche suivant et dire, chapitre 4, qu'est-ce que je vais dire ? Non, en fait, il vient d'annoncer, on l'a vu, on l'a étudié un peu en détail, toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Il vient dans ces quelques versets de nous donner toute l'importance de la parole de Dieu, du texte que vous avez entre les mains. Alors, on n'a pas fait une étude de savoir comment ce texte est constitué, mais sachez que c'est un texte très fiable par rapport aux manuscrits anciens. On n'a pas les manuscrits originaux. Si on les possédait, ils seraient dans un musée et il y aurait des voyages et toute une industrie de tourisme autour de ces textes. Il y a un peu ça. On peut aller en Israël et voir des lieux, des endroits, des objets qui ont un rapport avec la Bible. Mais on sait que les textes que nous avons en notre possession sont dignes de foi. On a parlé des textes, des documents de Qumran qui ont été retrouvés au début des années 50, 1947 et les années suivantes, qui nous ont montré qu'en fait le texte qu'on avait pour l'Ancien Testament, c'était un texte éminemment fiable. Il avait été recopié par des scribes, des mazorètes, avec un soin unique. Et on a dit qu'en fait, en comparant le texte qu'on avait avant, le plus récent, qui datait de l'an 900 après Jésus-Christ, on a retrouvé ces textes qui dataient de 200 ans avant Jésus-Christ et on a constaté qu'ils étaient absolument identiques, à part quelques petites variations de ponctuation, de termes qui ne représentent aucune importance doctrinale. Pour décider si un texte était dans la Bible, il y avait des critères. Dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il y ait une autorité prophétique, c'est-à-dire qu'il ait été écrit par ou sous la dictée ou l'influence très proche de quelqu'un qui était reconnu comme un prophète. Pour le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle l'autorité apostolique. Il fallait que le texte ait été dicté par un des apôtres ou par quelqu'un de très proche des apôtres, comme Luc, qui était très proche de Paul. Et l'autorité apostolique s'était reconnue à l'époque dans les églises, les lettres circulaient et on les recevait comme étant la parole de Dieu. On a vu que Paul, quand il parle ici de toute écriture, c'est pas seulement l'Ancien Testament, il savait que ce qu'il écrivait sous la dictée du Saint-Esprit, faisait partie aussi de l'écriture, comme le dira Pierre un peu plus loin dans notre Bible. Vous avez peut-être entendu parler du canon des Écritures. Alors le canon des Écritures, c'est pas parce que ça fait un grand boom dans votre vie. On espère que l'Écriture fait un grand boom dans votre vie lorsque vous la découvrez. Mais le canon, c'est un terme qui veut dire la norme. Le canon, c'était l'unité de mesure, la canne. En Égypte, on utilisait une canne de papyrus pour mesurer, et c'était en fait la norme pour mesurer quelque chose. Donc le canon des Écritures, c'est l'ensemble des Écritures qui sont reconnues comme inspirées de Dieu. Et il y a eu quelques différences dans la Bible entre le canon des protestants et le canon des catholiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie d'un peu près cette histoire, on s'aperçoit que les textes qui se trouvent dans la Bible catholique, qui ne sont pas dans la Bible protestante, nous on a 66 textes, 66 livres. Les catholiques en ont une demi-douzaine, ou 6 ou 8 de plus. On s'aperçoit qu'en fait ces textes étaient déjà mis en doute par l'Église catholique, mais qu'à l'époque de la Réforme, pour se démarquer et pour gêner les protestants, ils les ont rajoutés dans le canon, dans l'ensemble de leur Bible. Donc nous, on a une Bible dans laquelle vous pouvez avoir entièrement confiance, et c'est ce texte dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il nous dit que, dans le livre des Actes, acte 20, verset 27, on l'a déjà vu, vous pouvez vous y reporter ou le noter. Lorsqu'il fait son discours d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse, qu'il allait confier ensuite à Timothée, acte 20, 27, il leur dit: « Je vous ai, sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Lorsqu'il est question de toute écriture au verset 3:16, les deux versets qui précèdent le verset qu'on a lu aujourd'hui, c'est pareil, c'est toute écriture. On a fait remarquer qu'il y était question dans 1 Timothée 6:20 et 2 Timothée 1:14 d'un dépôt, du bon dépôt que les chrétiens avaient reçu. C'est la foi qui a été révélée, la foi dont parle Jude, qui a été révélée une fois pour toutes. Aujourd'hui, un des ressorts du marketing, de la vente, c'est de trouver des choses nouvelles. Vous aviez un iPhone version 4. Maintenant, il y a l'iPhone, pas encore 5, mais 4S. Ah, zut alors! Je peux jeter mon vieil iPhone et avoir de la convoitise pour un nouvel iPhone. Dans la parole de Dieu, prenez garde à ne pas avoir la même attitude, de chercher toujours un nouvel évangile qui nous avait été caché jusqu'alors. L'évangile selon Barnabas. On nous l'a caché, celui-là. Il doit y avoir des choses très importantes. On ne nous dit pas tout, comme dirait Anne Roumanoff. On nous cache des choses. Et donc les gens se précipitent sur Paris Match, sur l'Express, pour voir quels sont les mystères qu'on nous a cachés si longtemps. Non, tout a été révélé, tout est là, et vous n'avez besoin de rien de plus. Mais ce que vous avez en votre possession, vous devez le connaître, vous devez le pratiquer, vous devez l'aimer, vous devez vous laisser reprendre par ces choses, et ce n'est pas facile, mais nous sommes des gens éminemment bénis d'avoir le texte de ce que Dieu veut qu'on connaisse. Quelle est la plus grande poursuite dans la vie ? Être financièrement indépendant. Ah, là, ça sera bien. Ça n'existe pas. Vous pouvez être très riche, mais du jour au lendemain, vous pouvez perdre cette richesse. Être en bonne santé, tôt ou tard, l'âge, la maladie, la mort vont vous rattraper. Mais une chose dans laquelle vous pouvez investir et qui ne vous sera jamais repris, la plus grande poursuite de la vie, notez-le, c'est de connaître Dieu. Connaître celui qui a tout créé. Connaître celui qui vous a dessiné à l'intérieur du ventre de votre maman avant même que votre maman n'existât. Imparfait du subjonctif avec un accent circonflexe, athée. Ça veut dire très loin dans le temps. Et ce Dieu qui vous aime, qui l'a prouvé en envoyant son Fils mourir à la croix, il veut que vous le connaissiez. Il veut que vous sachiez comment il pense, comment il agit, comment il veut que vous répondiez à son amour et à ses actions. Et tout ça, vous l'avez là, dans la parole de Dieu. Quel trésor ! Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On cherche la direction, on veut savoir où on va, donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout est là. Alors peut-être que c'est pas assez précis pour vous, mais imbibez-vous des principes, imbibez-vous de ce qui est dit et les petites manifestations de savoir si vous devez aller faire vos courses à Leclerc ou à Leroy Merlin vous seront indiquées par la sagesse que l'Esprit Saint va mettre en vous. Mais tout est dit, tout est là. Et c'est pour ça que Paul adjure Timothée. Je t'adjure. Je t'exhorte de la façon la plus forte. C'était l'expression qui était donnée lorsque l'on témoignait dans une cour de justice sous serment. On adjuré. C'est le verbe en grec qui veut dire être témoin, être martyr à travers quelque chose. C'est quelque chose qu'on déclare et on est prêt à mourir pour cette chose si jamais on nous demande de la renier au prix de notre vie. Paul lui dit, je te donne cet ordre, cette adjuration, je ne sais pas si ça existe, ce commandement devant Dieu et devant le Christ Jésus. Wow. C'est pas je te le dis craché sur la tête de ma mère. C'est devant le Dieu de l'univers qui a tout créé, devant Jésus-Christ, son Fils unique, par qui le monde a été créé. Il a été l'agent de la création. C'est lui qui est venu s'incarner, mourir à la croix, qui va revenir et qui va juger les vivants et les morts. Les jugements. On n'aime pas trop parler de jugement. On vit dans une société où on fait tout pour éviter les jugements. On fait appel. Et puis on fait un contre-appel. On va jusqu'à la cour de cassation qui casse les jugements. On va jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis. Dieu est le juge suprême. Et il va juger, par Jésus-Christ, il va juger les vivants et les morts. Dans la Bible, il y a trois types de jugements. Il y a le jugement de nos péchés à la croix, pour ceux qui ont accepté le sacrifice qu'a fait Jésus-Christ pour eux. Il l'a fait pour tout le monde, mais il n'est valable que si on le reçoit, si on l'accepte. C'est un peu comme lorsque, pour une démarche de promotion commerciale, un magasin va donner des cadeaux. Si vous ne venez pas chercher votre cadeau, vous n'allez pas recevoir votre cadeau. Mais si vous venez, on vous donnera le cadeau. Et généralement, lorsqu'il y a une situation comme ça, c'est curieux, mais on en parle autour de soi. Il y a un nouveau Picard qui s'est ouvert, avenue de la Californie, et si tu y vas avant dimanche, il te donne un sac gratuit avec un gros sachet de frites, une boîte de hamburger et des glaces à la vanille. Waouh ! On fait de l'évangélisation, on témoigne de ce don incroyable. Le trésor que l'on a reçu, il est bien sûr supérieur au paquet de frites de Picard. Pardonnez-moi cette trivialité. Il a jugé nos péchés à la croix. Mon péché, mes péchés passés, présents, j'en fais encore malheureusement. Si vous voulez vérifier, demandez à Nancy, où beaucoup d'entre vous me voient pécher à longueur d'année. Et les péchés futurs, il les a portés à la croix. Ça, c'est un premier jugement. Et c'est merveilleux parce que c'est lui qui a porté mon jugement. Quand on fait le stand à la fac, j'aime bien présenter l'évangile en disant c'est un peu comme s'il y avait un criminel notoire qui prenait un plaisir sadique à tuer les gens autour de lui, qui se faisait un jour reprendre par la justice, par la police d'abord, qui l'arrête, qui lui met les menottes, qui le met hors d'état de nuire et qui le fait comparaître devant un juge. Et le juge lui dit, vous êtes reconnu coupable après un procès, vous êtes reconnu coupable et la peine, c'est la peine capitale. Alors ça ne marche plus en France cette illustration, mais ça marcherait encore au Texas. Imaginez-vous, vous allez être condamné à la chaise électrique. On va vous mettre dans une chaise en bois avec des petites bandes en cuir bien solides. On va vous mettre un drôle de casque sur la tête. On va vous mettre des électrodes au bras et quelqu'un va pousser la manette et ça va sentir la chair grillée. Je suis un peu graphique là, excusez-moi. Et à ce moment-là, le coupable, il voit que ça, il a fini de faire le malin, il s'effondre et le juge lui dit « Mais rassurez-vous, mon fils ici présent va aller sur la chaise électrique à votre place. Et si vous le laissez faire, moi je vous invite à venir habiter avec moi pour toujours. » Et je dis aux étudiants, c'est ça l'évangile. C'est un peu à l'emporte-pièce, caricatural, mais en réalité, c'est ça. Je mérite la mort et le Fils de Dieu est venu la prendre à ma place pour que moi, j'aie la vie avec le Père et le Fils ressuscité pour toujours. Si ça, ce n'est pas une bonne affaire, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est une si bonne affaire que Dieu nous laisse sur terre pour en parler autour de nous. Une fois qu'on devient chrétien, ce n'est pas pour qu'on prospère, qu'on ait une grande maison, une belle famille, des enfants qui réussissent. Dieu peut donner ces merveilleuses choses, mais s'il nous laisse ici, au lieu de nous enlever tout de suite avec lui pour toujours, c'est parce qu'il a choisi de nous utiliser pour partager ce message. Ça, c'est le premier jugement, le jugement à la croix. Le deuxième jugement, c'est ce qu'on appelle des fois le tribunal de Christ. et on trouve une allusion à ce jugement pour les chrétiens et leurs œuvres dans 2 Corinthiens 5, 10. Paul explique aux Corinthiens, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Et puis, donc ça c'est là que nos œuvres sont jugées. On peut aller au paradis, mais ce que nous avons fait, ce que nous aurons fait de notre vie pour le Seigneur sera évalué. Si nous avons construit de belles choses, si nous avons partagé l'Évangile, si nous avons mené une vie qui a inspiré d'autres à suivre cette vie, à aller vers le Seigneur, ce sera considéré comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Si nous avons vécu égoïstement, même si nous sommes devenus l'homme le plus riche du monde, le plus célèbre, quoi que ce soit, ce sera comme de la paille qui brûle, de l'herbe. Et il nous est aussi révélé dans le conseil de la Bible que on va recevoir des couronnes. Rimena va recevoir une couronne bientôt. La pauvre, elle va recevoir une couronne sur sa dent. Et ça fait pas mal, on lui a dit, mais elle a peur que ça va faire très mal. Non, il est question de certaines couronnes, couronnes de justice, de gloire. On pourrait faire une petite étude là-dessus. Et on se dit, oui, mais c'est pas très chrétien de chercher à avoir des couronnes pour montrer qu'on est meilleur que les autres. C'est pas notre idée, c'est l'idée de Dieu. Et on devrait, de même qu'un athlète va essayer d'avoir la médaille d'or, il va être un peu déçu s'il a la médaille d'argent, encore un peu plus s'il n'a que le bronze, et puis le quatrième dira « j'ai la plus mauvaise place, parce que je suis le premier des derniers ». Ces couronnes, en fait, il est dit qu'on ne va pas parader pour l'éternité avec nos belles couronnes. Non, il est dit dans l'Apocalypse qu'on va les remettre au pied du trône de Dieu. Devant lui, on réalisera que même ces récompenses sont vaines, je crois. Pas vaines dans le sens où elles ne sont pas valables, parce que c'est biblique, mais qu'en comparaison de sa gloire, qui sommes-nous pour vouloir attirer un peu de gloire sur nous? Donc, ça, c'est un deuxième tribunal. Et puis, l'autre tribunal, c'est un tribunal beaucoup plus sérieux. C'est le tribunal, le grand tribunal blanc. C'est généralement l'idée que les non-spécialistes ou les non-convertis, les non-croyants, les non-convertis, l'homme de la rue, même s'il ne croit pas en Dieu, il a entendu parler du jugement dernier. Et pour la plupart, et c'est aussi l'influence de d'autres religions, l'islam par exemple enseigne que les bonnes actions et les mauvaises actions sont pesées. Et puis, suivant où va l'aiguille de la balance, on passe ou on ne passe pas. Apocalypse 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. » La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé et inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Passage un peu très imagé, très, très impressionnant, mal compris souvent. Ce qui est dit, c'est que si votre livre n'est pas trouvé dans le livre de vie, vous êtes jeté dans cet étang qui était fait pour Satan et ceux qu'il a, les anges qu'il a séduits. Et il est expliqué que c'est la deuxième mort. Si vous n'êtes né qu'une seule fois, vous mourrez deux fois. Si vous êtes né deux fois, vous ne mourrez qu'une fois. Ça, c'est une équation dont vous n'avez pas parlé dans votre cours de maths, mais c'est une équation très importante. Ça veut simplement dire que si vous êtes né physiquement, puis que vous ne venez jamais à Christ, lorsque vous allez mourir physiquement, vous allez être gardé en réserve pour ce jugement, et là, vous serez, dès qu'on vous mettra à mort dans cet étang de feu. C'est la seconde mort. Une naissance, deux morts. Par contre, si vous êtes né premièrement physiquement et que vous êtes né de nouveau, né d'en haut, comme Jésus l'enseignait à Nicodème dans Jean 3, à ce moment-là, vous ne mourrez pas, vous vivrez pour toujours. Vous ne serez mort si Jésus est revenu après votre mort, vous ne serez mort qu'une seule fois. Donc vous avez le choix. Une naissance, deux morts. Ou deux naissances, une mort. Vous choisissez. Ça, c'est le grand jugement dont les trois grands jugements dont parle la Bible. Revenons à notre passage, Timothée, de Timothée 4. Et donc, c'est devant ce Dieu et ce Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Si vous voulez être vraiment fort dans vos paroles, vous, non seulement vous parlez en présence de Dieu, devant Jésus-Christ, mais au nom de son avènement et du royaume. Wow. Vous faites appel à tout ce qui est de plus important, ce qui est de plus sacré dans l'existence, dans l'univers, au nom de son avènement. C'est le mot grec qu'on utilise pour la fête des rois, l'épiphanie, qui veut dire l'avènement, la venue, l'apparition. Ça désignait le terme utilisé lorsqu'un empereur venait visiter un endroit. Les gens se préparaient pour son épiphanie. Alors, ils ne faisaient pas des galettes des rois, mais ils savaient qu'ils allaient recevoir un roi ou un empereur, et il fallait que tout soit impeccable. Quand on a fait les travaux de rénovation d'électricité en haut, on a demandé à un contrôleur officiel de l'APAV, où il y a Bureau Veritas, de venir vérifier que tout était aux normes. Je peux vous garantir qu'on a travaillé dur avant son épiphanie. Il est arrivé, et Dieu merci, c'était bon. Est-ce que vous vivez en vous attendant au retour de Jésus-Christ aujourd'hui ? Je dois avouer que depuis le temps que j'en entends parler, je me dis ça viendra un jour, mais on a encore le temps. Mais lorsque la Bible nous parle de son retour, elle nous garantit qu'en fait il peut revenir à tout instant. Veillez, parce qu'il va revenir comme un voleur. Et un voleur, il vous envoie pas un texto, un message Facebook ou un email pour vous dire « Je pense venir lundi après-midi vers 15h ». Non, quand il vient, il vous surprend. Et je pense, je parle pour moi, mais je parle pour vous peut-être, vous me direz après si ce n'est pas le cas, si vous vivez vraiment comme si Christ pouvait revenir maintenant. Est-ce que vous vous dites je préférais qu'il revienne un peu plus tard parce que la maison n'est pas encore tout à fait en ordre? Ou vous vous dites non, c'est bon, il peut venir maintenant? Si vous pensez qu'il peut réellement venir maintenant, vous allez avoir tendance à faire le ménage tous les jours, à confesser vos péchés et à recevoir son pardon et sa purification. Lorsque vous êtes tenté par le péché, vous allez penser à deux fois avant de succomber à cette tentation. Et c'est un grand principe de vie chrétienne. C'est le principe de s'attendre au retour immédiat de Jésus-Christ. La bienheureuse espérance qui fait que nous allons vivre dans la sainteté. Et souvent, lorsque on se laisse tenter par le péché, on se dit « Bon, je me laisse aller, je me lâche pour un moment, mais je vais me ressaisir. » Non, ressaisissez-vous, et je parle pour moi, ressaisissons-nous, ressaisis-toi Pierre, avant de succomber à la tentation. Tite, c'est la... Tournez une page sur la droite. Tite, chapitre 11. La grâce, chapitre 2 de Tite, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Et soulignez bien, si vous avez un crayon, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Cet avènement, si nous l'attendons vraiment comme un événement imminent, et encore une fois, rien ne doit intervenir, d'après la Bible, entre le moment où je vous parle et ce retour. Alors on dit dans les derniers temps, il y aura des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre. Ça fait un moment qu'il y en a. Sachez qu'il n'y a pas d'événement à attendre avant de se dire « ça y est, maintenant ça peut venir ». Ça, c'est fondamental pour vivre une vie chrétienne victorieuse, où on dit non au péché. Et le royaume, donc il l'adjure, ça c'est juste l'introduction, hein, il a Timothée là, il a « Waouh, qu'est-ce qu'il va me dire maintenant ?» Il m'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Le royaume de Dieu est proche de nous, disait Jésus. Et la meilleure définition d'un royaume, c'est là où quelqu'un règne. Et le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Si Dieu règne dans votre vie, son royaume est déjà là dans votre vie. Mais il va venir, il va toucher toute la terre. Il va remettre les pendules à l'heure, comme l'on dit. Et là, après avoir averti que c'était vraiment solennel, grave, important, écoute-moi bien, ne te laisse pas distraire, ne pense pas à ce que tu as mangé hier soir ou ce que tu vas faire cet après-midi. Écoute, je t'adjure, sois un bon chrétien. Non, prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, parce qu'il y a un moment où les gens vont plus vouloir entendre la vérité. Ils vont s'arranger pour trouver des églises qui leur enseigneront que s'ils sont de bons chrétiens, ils vont être riches et en bonne santé pour toujours. Ils vont trouver des églises, on leur dit qu'il suffit de prier pour le réveil, qu'il n'y a rien à faire dans la sainteté personnelle, que le réveil c'est comme un grand tapis volant qui va arriver et tout le monde peut monter dessus et on sera heureux pour toujours et le nom de Jésus sera proclamé dans la France. Ça commence par moi le réveil. Ça commence par ma sainteté ou mon manque de sainteté qui doit être éliminé par la prière, par la consécration. On va regarder un peu ces termes. Rassurez-vous, on ne va pas continuer, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Prêche la parole. Souvent, le terme de prêcher est mal reçu dans notre société. Soit on parle de prêchi-prêcha, ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui gesticule, qui prêchi-prêcha, on s'en moque, qu'ils sont bêtes ces paroles, c'est pas pertinent ce qui est dit. Ou alors c'est rébarbatif, c'est prêcher à quelqu'un, c'est lui enseigner ou lui rappeler des vérités ou l'exhorter, mais de façon un peu supérieure. Moi, je te dis de faire ça. Oh, il m'a prêché la morale. Non, prêche, c'est annoncer publiquement. Il y a une époque où on n'avait pas Internet, SMS, etc. Vous pouvez compléter la liste. Et il y avait l'annonceur public. Il venait dans la rue avec une trompette. Plus près de nous, avant même encore avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'annonceur public qui venait avec son tambour dans le village.
Avis à la population, il n'y aura plus d'eau à la fontaine.
Et on annonçait publiquement. De la même façon, on doit venir et annoncer l'évangile. On doit annoncer la parole. Donc c'est premièrement une action, c'est d'annoncer, mais ce qui compte, c'est le contenu de cette annonce. On voit que tous les verbes qui décrivent montrent un éminent sérieux dans cette tâche. C'est pas quelque chose, bon tiens, je dois parler dimanche, je vais mettre quelques versets ensemble et puis le Saint-Esprit fera le reste. Non, c'est un travail, c'est une tâche de tous les instants. Ce qui va ressortir ne va être que le fruit d'un travail intense et sérieux. Quelqu'un faisait remarquer que vous connaissez tous la Statue de la Liberté. Et vous pouvez rappeler à vos amis ou vos parents américains que c'est un cadeau de la France. Moi, l'amitié entre Nicolas et Obama, ça remonte à un moment. Nicolas et Barack. Et vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Le socle de la Statue de la Liberté est fait en marbre. Et devinez d'où vient ce marbre ? Il vient d'à côté, il vient de Brignoles. C'est du marbre de Brignoles. Le sculpteur, plutôt le gars qui a fait l'ossature interne, vous le connaissez tous, c'est lui qui a fait la Tour Eiffel. C'est Gustave. Gustave Eiffel, il a fait l'intérieur de la Statue de la Liberté. Et puis le gars qui a fait la sculpture, qui a pensé au dessin, il s'appelait comment ? Bartholdi. Eh bien, Bartholdi, figurez-vous qu'il a fait son travail avec un sérieux incroyable. Pourquoi on le sait ? Parce que à l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas JFK, LaGuardia et un troisième aéroport là-bas, j'ai oublié. Quelqu'un ? Il n'y avait pas tous ces avions qui passaient au-dessus de la Statue de la Liberté. Et pourtant, il s'est appliqué à ce que le dessus de la Statue de la Liberté soit aussi bien fait que tout le reste. En fait, il y en a peut-être qui lui ont dit, écoute, tu perds ton temps, tu te casses la tête pour les mouettes. Elles vont venir dessus, et ça sert à rien. Mais lui a fait un travail sérieux sans savoir que quelques dizaines d'années plus tard, tout le monde allait pouvoir... Oh, elle a une belle tête, hein. Les cheveux sont impeccables, la couronne est impeccable. Il a fait un travail avec un sérieux tel qu'il ne savait même pas que ça allait être vérifié. Et lorsqu'il est question d'annoncer la parole, c'est pareil. On doit être quelqu'un qui s'adonne à la parole. On doit bien dispenser la parole, être un bon ouvrier qui dispense avec justesse la parole de Dieu. On a vu dans Timothée. On va pas tout dire ce qu'on a pu étudier, mais ça va ressortir dans l'annonce de la parole. Prêche la parole. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est qu'on prêche plein d'autres choses. On prêche l'action sociale, on prêche l'action politique, on prêche, oui, les œuvres de bienfaisance. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais le mandat que Dieu donne aux prédicateurs, c'est de prêcher la parole, le bon dépôt, toute écriture, tout le conseil de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on fait ça, lorsqu'on proclame la parole, et la meilleure exposition de la parole, c'est de la faire systématiquement pour toucher tout le conseil de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, et de l'Apocalypse, revenir à la Genèse, et ainsi de suite. D'expliciter le texte. C'est un texte qui a été écrit il y a des milliers d'années, mais qui est toujours pertinent. Si on s'efforce de regarder ce qui est dit, de voir ce que ça veut dire, et de se demander comment ça s'applique à moi aujourd'hui, en 2011, à Nice. Et cette façon d'annoncer la parole, on peut prier que ça se répande. Parce qu'on a besoin de tout le conseil de la parole, on a besoin de toute la parole. Pas seulement des passages favoris, des passages qui parlent de prospérité, des passages qui parlent du Saint-Esprit et des dons de l'Esprit, c'est des choses valables. Le Saint-Esprit est réel, il donne des dons aujourd'hui pour l'annonce de sa parole. Sans lui, on ne peut rien faire de valable. On doit être baptisé par le Saint-Esprit qui vient sur nous pour nous permettre d'être des témoins efficaces et fidèles. Mais il faut prêcher la parole, parce que c'est laisser parler Dieu au lieu de laisser parler l'homme. Et aujourd'hui, on fait des études, on aime bien partager ce que l'on a appris par ailleurs. On va lire des livres qui parlent de la parole et on va... Non, parlons, enseignons la parole. Le Saint-Esprit a inspiré, Pierre nous l'explique lorsqu'il est dit dans 2 Timothée 3,16 qu'elle est inspirée, elle est soufflée par l'Esprit Saint, par Dieu, à des hommes qui l'ont transcrite. Et donc lorsqu'on fait ça, on est en communion avec le Saint-Esprit. Si on expose toute la parole, on ne saute rien. Les passages qui me gênent, les passages qui vous gênent, on se les prend dans la figure. Alléluia, parce qu'on en a besoin. Si on explicite la Bible de cette façon, on va augmenter notre connaissance biblique. On va, de jour en jour, apprendre davantage, on va avoir soif de connaître davantage la Bible, on va pouvoir faire des rapprochements, et on va de mieux en mieux connaître cette parole de salut. Si on proclame la parole de la sorte, il y a l'autorité de Dieu. Il y a l'autorité suprême de Dieu qui est là. C'est pas moi qui vous dis, aspirant pasteur ou prédicateur, prêchez la parole. C'est Dieu qui vous le dit. Je suis simplement celui qui rapporte ou qui peut expliciter un peu. Mais si vous connaissez la Bible, j'ai rien à vous apprendre. La parole est la seule chose qui peut changer le pasteur et son auditoire et l'assemblée. C'est le seul moyen de transformer. On peut imaginer toutes sortes de choses, des cours de ceci, des cours de cela, mais c'est la parole reçue avec ferveur, avec sérieux, inspirée par l'Esprit de Dieu, qui l'a inspirée aux auteurs et qui peut vous la restituer avec toute sa vie et toute sa force, toute sa puissance. Et puis une simple raison pour laquelle il faut prêcher la parole, c'est parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose, il ne dit pas « prêche la parole et les nouvelles du jour », prêche la parole. Alors on peut utiliser des blagues, des anecdotes, mais ça ne doit jamais au détriment du texte lui-même, du texte biblique. Voilà. Prêche la parole. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce trésor de ta parole. Qu'elle soit toujours plus dans nos vies, dans ma vie, dans mon cœur, quelque chose qui nous motive, qui nous donne soif. Qu'on n'ait jamais à se forcer pour ouvrir ta parole, Seigneur. Et pourtant, l'ennemi va nous proposer des tas de distractions. On va la laisser de côté jusqu'au dernier moment et après on sera trop fatigué. Et je te demande pardon pour toutes les fois où j'agis de la sorte, Seigneur. Seigneur, tu nous dis qu'on ne doit pas être nombreux à vouloir être prédicateur, pasteur, responsable pour annoncer ta parole parce qu'on aura un jugement plus sévère, Seigneur. Et on comprend pourquoi. On te demande vraiment, Seigneur, de susciter des vocations, Seigneur, des gens qui veulent être des docteurs, comme disait Jacques, des enseignants, malgré ce jugement plus sévère qui s'applique à ces hommes, Seigneur, à ces femmes. On te demande de nous faire grandir dans la soif de ta parole, faire grandir dans la compréhension, et nous à être des gens de ta parole, Seigneur, des hommes et des femmes de ta parole, à nous réclamer d'elle. Dans le nom de Jésus. Amen.